Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en direct de la Porte de Versailles, en direct sur Radio Immo et Radio Territoria. On vous fait vivre pendant deux jours le SIEC. Le SIEC, c'est le rendez-vous important, le rendez-vous à ne pas louper, le salon qui réunit tout l'écosystème du commerce et de l'immobilier commercial autour d'un thème clair cette année, le commerce, ça se vit. Pour en parler, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Noël. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le délégué général de la FACT. Alors la FACT, c'est la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. C'est vrai que vous représentez en fait les commerces physiques dans leur dimension immobilière, urbaine et territoriale. C'est ça.
Hein. Absolument, vous nous présentez très bien.
Quel est votre rôle? Quelle est votre mission au quotidien?
Alors, on est d'abord issu du Conseil national des centres commerciaux, pour ceux qui se rappellent de cette institution. Oui. On est une organisation professionnelle et on est à cheval entre le monde du commerce et le monde de l'immobilier. Donc, on fait partie des fédérations professionnelles spécialistes du support immobilier nécessaire à l'activité des commerçants. Nos adhérents, ils se répartissent pour moitié entre des investisseurs dans l'immobilier de commerce et pour moitié dans des sociétés de services qui sont actrices de la filière. Donc ça va des cabinets d'avocats aux cabinets d'études marketing en passant par les architectes.
Et alors, aujourd'hui, donc, le SIEC a ouvert ce matin, 116 exposants, tous les espaces réservés. Qu'est-ce que ça dit de la dynamique du secteur ?
Alors encore mieux que ce nombre d'exposants, on a 35 nouveaux exposants cette année. Et ça, ça dit quelque chose d'abord du salon et de son repositionnement progressif qui correspond d'ailleurs à celui qui a prévalu quand on a transformé le CNCC en FACT. L'idée à l'époque et l'idée pour le salon, c'est de représenter toutes les typologies de lieux de commerce et de représenter tous les acteurs de la filière. Alors cette diversification dans les formes de commerce, elle s'incarne par le fait que cette année, on s'honore d'accueillir 9 collectivités exposantes. Plus celles qui vont nous rendre visite. Donc c'est vraiment pour nous très important que les centres-villes, les représentants des collectivités soient présents sur le salon. Et puis l'autre axe de diversification, c'est les contenus. Et donc on a davantage d'acteurs de l'écosystème. Là aussi avec, j'ai découvert tout à l'heure, un stand qui propose des palissades pour habiller la vacance, des acteurs du marketing aussi qui sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Voilà. Donc le SIEC est de plus en plus œcuménique et de plus en plus représentatif de l'ensemble de la filière.
Oui, c'est de plus en plus large. En fait, le panel est de plus en plus large. C'est vrai que c'est très intéressant de se balader dans les allées. Alors, on voit un commerce physique qui résiste. C'est vrai qu'on avait annoncé la fin du commerce physique avec l'essor du e-commerce. On voit que ce n'est pas le cas, au final. On a besoin... Alors, on parle beaucoup d'expérience, l'expérience humaine, l'expérience de la vente, l'expérience du consommateur. Comment on voit ça en 2026, de votre point de vue?
Il y a une foule de questions dans votre question. La première chose, c'est quand même de dire que il y a un sujet conjoncturel en ce moment, qui est celui de la hausse notamment des prix de l'essence, de la situation
on est en pleine crise énergétique.
Économique, on peut le dire, absolument. Et à notre grande surprise, et les chiffres de fréquentation résistent extrêmement bien. On n'a pas vu depuis le début du conflit, début mars, d'inflexion significative de la fréquentation dans les sites. Donc ça, c'est quand même la preuve.
Donc ça, c'est la fréquentation, c'est pas les achats.
C'est la fréquentation. En revanche, c'est vrai que depuis l'automne dernier, on a vu une petite décorrélation entre l'évolution de la fréquentation et des chiffres d'affaires.
D'accord.
Malheureusement dans un sens négatif, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires sont moins dynamiques que la fréquentation, ce qui signifie, alors que historiquement c'est quasiment parfaitement corrélé. Vous avez 1% de hausse de fréquentation, vous avez 1% de hausse de chiffre d'affaires. Et là on a une petite décorrélation à hauteur de 100 ou 150 points de base, donc 1 ou 1,5%. Donc on voit que les gens font davantage attention.
Donc ça veut dire que les gens se freinent
dépenses.
En fait. Ça
Exactement.
Veut dire qu'ils se déplacent, mais ils se retiennent
voilà.
d'acheter.
La bonne nouvelle, c'est qu'ils continuent à se déplacer et à venir sur les sites. Alors qu'est-ce qui fait qu'effectivement, dans ce contexte où tout est tellement facile depuis un téléphone portable ou un ordinateur, pourquoi les gens continuent-ils de se déplacer? C'est sans doute parce que justement, la dimension du vivre ensemble, du lien social, du plaisir qu'il y a à avoir une activité qui permette de sortir de chez soi, continue à faire partie des attributs et des qualités du commerce physique. Et c'est pour ça que notre fédération et ce salon se sont placés sous cette bannière du commerce qui se vit. Par opposition, c'est vrai, avec celui qui n'est pas créateur de liens, mais plutôt d'externalités négatives sur notre environnement. Alors, néanmoins, ça a des implications, parce que le commerce, ça se vit, c'est une promesse qu'il faut que chaque opérateur, chaque commerçant soit en mesure de tenir. Cette promesse, c'est quoi ? C'est de dire, vous êtes accueilli dans des conditions qui sont favorables à la visite. Ça pose vraiment la question des fondamentaux du parcours client. Trouver facilement à se garer, trouver en tout cas des solutions d'accès, si ce n'est pas l'automobile, qui sont pratiques pour tout le monde. Et puis avoir tous les services de base, à commencer par des lieux qui soient sûrs, qui soient agréables, qui soient nettoyés, dans lesquels il y ait des services. Ça, là, je parle bien des lieux qui, par ailleurs, font tout un travail sur la diversification des usages, la diversification des offres qu'on peut y trouver. Mais se pose aussi la question de la façon dont les gens sont accueillis dans les magasins et ce que les enseignes sont capables de leur proposer. Le vrai sujet là-dessus, c'est de trouver les bons équilibres pour les anciennes avec une mise à disposition de personnel qui permette de répondre aux besoins d'accueil, de conseils, d'information du public. Et un autre sujet, c'est aussi la disponibilité des produits, des stocks, sur lequel évidemment le compétiteur internet est très bon. Mais voilà, il y a un jeu concurrentiel aujourd'hui qui est complexe entre toutes les différentes formes de commerce, entre les typologies de lieux de commerce, très certainement. On est sur un marché qui est très mûr dans notre pays, où on ne voit plus ou quasiment plus de développement de mètres carrés commerciaux. C'est relativement marginal aujourd'hui. La question, c'est capter le peu de croissance qui existe sur le marché, même s'il y a des disparités régionales qui sont très fortes, et réussir donc à se spécialiser, à avoir une proposition de valeur qui est claire.
À se démarquer, en fait.
À se démarquer, ouais. Exactement. De moins en moins, on voit finalement des sites commerciaux se dire « je suis le compétiteur de tout le monde ». À l'époque où d'ailleurs on essayait d'opposer de façon un peu caricaturale, par exemple, le centre-ville et les périphéries, on essayait de nous faire croire que finalement c'était deux objets qui étaient directement concurrents, là où je pense qu'aujourd'hui tout le monde a bien compris qu'il fallait plutôt raisonner en termes de logique de complémentarité. Complémentarité donc entre des offres qui ne sont pas de même nature, des fonctions qui ne sont pas de même nature, mais aussi, même à l'intérieur d'un même segment, celui par exemple du commerce de périphérie, il y a les spécialistes des mètres carrés low cost avec des offres aussi très orientées sur le prix et la compétitivité en la matière, et d'autres qui en revanche vont chercher à être une destination multifonctionnelle, d'autres encore qui vont vraiment jouer le rôle de la proximité et du service apporté à la population d'une zone de chalandise plus réduite. Bref, chacun comprend qu'il doit finalement creuser son sillon avec une exigence sur l'opérationnel qui est extrêmement forte.
Alors, je ne sais pas si c'est une tendance. Je constate en tout cas une polarisation de la consommation. Le low cost, le discount marche très très bien. Le premium continue de marcher aussi. En revanche, le milieu de gamme souffre. On a vu des enseignes comme Minelli fermées, La Redoute qui a annoncé un plan stratégique de restructuration, Nature et Découverte. J'ai l'impression que le milieu de gamme souffre un peu. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi? Et le milieu de gamme,
Alors, je relativiserai quand même un petit peu ça. Alors, en bas du spectre, très certainement, là, c'est vrai que, on l'a bien vu avec l'essor formidable des enseignes de discount, mais qui semble quand même atteindre un certain plafond. Pour le coup, là, la donne concurrentielle est aussi en train de changer. Et c'est pas un secteur qui est facile non plus pour tout le monde. Et pour le coup, je pense qu'il faut distinguer un peu les cas parce que le milieu de gamme, c'est vrai qu'il y a des enseignes qui ont beaucoup souffert, mais finalement, sur des segments à peu près comparables, et si on veut rester sur le prêt-à-porter, qui est un secteur hautement concurrentiel s'il en est, là, pour le coup, on a quand même des enseignes qu'on peut qualifier de milieu de gamme qui marchent extrêmement bien. Même,
Par exemple, vous avez des exemples
Finalement, dans le prêt-à-porter, comme dans beaucoup d'autres secteurs du commerce, l'histoire que notre pays raconte dans la distribution, c'est le succès des grandes surfaces spécialisées. Il y a énormément de secteurs, le jouet, le bricolage, le sport, dans lesquels les Français ont très clairement manifesté leur choix pour des enseignes qui sont à la fois compétitives en termes de prix et à la fois performantes en termes de largeur de l'assortiment, de largeur de gamme. Finalement, on retrouve le même phénomène aussi sur les enseignes de prêt-à-porter. la clé du succès aujourd'hui, ça semble être quand même la massification de l'offre, ouais, avec un mix rapport qualité-prix qui reste très performant. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que là, pour le coup, je dirais pas qu'on est dans la premiumisation d'un côté et la paupérisation de l'autre. Non, il reste en fait un milieu de gamme qui est quand même très puissant dans notre pays.
Mais ça se démarque par la qualité, du coup, c'est ce que vous voulez dire.
En tout cas, par la capacité de ces enseignes à proposer un rapport qualité-prix perçu, bien réel, hein, de toute façon, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que si dans notre pays, les achats de nos concitoyens en matière de prêt-à-porter ont vraiment tendance à stagner, voire à décroître, hein, en termes réels, à l'inverse, le nombre d'articles vendus ne cesse de croître, ce qui veut dire qu'il y a quand même une pression sur les prix. Ouais. Voilà, les gens n'achètent pas forcément moins de textiles, mais ils le paient moins cher.
Alors justement, pour parler de ça, c'est vrai que on voit le pouvoir d'achat des Françaises contracté, hein, depuis le 28 février. Alors depuis, c'est le déclenchement de la guerre, hein, au Proche-Orient, ça a créé une crise énergétique qui impacte le pouvoir d'achat des Français, avec l'augmentation, hein, vous l'avez dit, du carburant, mais du pétrole plus généralement, donc des transports, de certaines matières, hein, du plastique. On voit que, vous l'avez dit, les Français se freinent. Quels sont les secteurs sur lesquels ils arbitrent le plus? Alors, j'ai rencontré le président de la coopérative U, qui nous expliquait que l'alimentaire n'était pas du tout impacté, bizarrement, enfin tant mieux, mais que voilà, l'alimentation, voilà, les Français n'arbitrent pas, en tout cas, sur l'alimentation. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi? Et dans ce cas, quels sont les secteurs sur lesquels il y a peut-être plus de freins de la part des consommateurs?
Alors, nous on n'a pas une visibilité géniale sur les chiffres d'affaires de l'alimentaire, ouais, justement, et ce serait intéressant de regarder par catégorie. Mais je rappelle que pour le coup, on sort d'une phase inflationniste de leur côté qui a été d'une violence extrême, qui a eu un effet très important sur les volumes. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une phase de stabilisation de ce côté-là. Et de toute façon, ça reste des dépenses quand même qui sont relativement contraintes. Vous mettez le doigt sur un sujet qui est quand même un problème majeur et sur lequel, comme beaucoup d'autres fédérations professionnelles, j'en parlais hier encore avec le MEDEF, on partage tous la même préoccupation de voir ce pouvoir d'achat des Français quand même massivement stagner. Et ce qui explique évidemment le phénomène de polarisation que vous évoquiez, à raison quand même dans tout un tas de secteurs, c'est quand même bien les disparités entre des revenus en haut de l'échelle qui continuent à croître et ceux qui, pour une très grande majorité de Français, semblent stagner. Et c'est quand même une vraie préoccupation. Alors, ça se voit justement dans ce que j'évoquais tout à l'heure sur le succès des grandes surfaces spécialisées, qui réussissent très souvent à combiner une offre très compétitive en termes de prix et malgré tout avec une largeur de gamme qui est formidable.
Dernière question, c'est vrai que bon, on va revenir sur le siècle. Il y a eu pas mal de rendez-vous business déjà calés. Je crois que c'est un record. Hein. Je discutais tout à l'heure avec le directeur du siècle qui me disait que c'était un record. Qu'est-ce que vous attendez de ces rendez-vous? C'est quoi la suite? Qu'est-ce que ça va donner?
C'est vrai que je n'ai pas évoqué toutes les missions de la FACT, mais si ce salon professionnel a été créé il y a maintenant plus de 20 ans, c'est avec l'idée qu'il est important de donner aussi des opportunités à nos adhérents de développer leur activité. Et un salon professionnel, c'est vraiment l'objet. Quelle que soit la nature des exposants ici présents, ils sont là pour rencontrer leurs clients. C'est particulièrement vrai, évidemment, pour les gens qui ont des espaces à mettre à disposition des enseignes. C'est quand même le cœur de métier de ce salon. Et donc, un salon réussi, c'est un salon dans lequel l'intensité des agendas est un bon marqueur, en fait, du succès du salon. J'ai l'impression, mais pour l'instant, elle n'est que visuelle, qu'on a beaucoup de monde ce matin. Je vois certains stands qui sont extrêmement studieux et très occupés, très denses. Je pense que voilà, il faut que les exposants soient bien conscients et surtout les plus récents d'entre eux, qu'un salon, ça se prépare. Il faut anticiper justement la prise de rendez-vous. Finalement, les gens sont tellement sollicités quand ils viennent au siècle qu'ils ne passent pas leur temps à se balader dans les couloirs pour passer d'un stand à l'autre de façon aléatoire. Voilà, ça se planifie. Mais je crois que ça en prend bien le chemin.
Ça s'organise.
Voilà.
C'est vrai. Ça se prépare. Merci beaucoup Christophe Noël pour cet entretien passionnant. C'est vrai qu'on resterait des heures à parler avec vous du commerce et de son essor. Le siècle, je rappelle que c'est un événement qui rassemble des foncières, des enseignes, des investisseurs, des collectivités, des start-up et des experts du retail. Donc n'hésitez pas, venez à la porte de Versailles. On vous fait vivre en tout cas cet événement pendant 2 jours sur nos antennes. À tout de suite.
Le SIEC, le salon de l'immobilier et des espaces commerciaux, les 10 et 11 juin 2026 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Radio Immo et Radio Territoria.